Chapitre 46. Enfant de Tanavast.
Bien qu'étant attendu pour dîner à Védénarville ce soir-là, j'insistais lors de ma visite à Kolinar pour m'entretenir avec Tiefbeth. Les droits de douane exigés pour traverser au Rithirou devenaient franchement excessifs. À ce stade, les prétendus radieux avaient déjà commencé à montrer leur véritable nature. À la suite de l'incendie du Palanais originel, il ne restait qu'une seule page de l'autobiographie de Terxim, et voilà la seule ligne qui me soit d'une quelconque utilité.
Kaladin rêvait qu'il était la tempête. Il avançait furieusement, s'élevant au-dessus d'une étendue noire et agitée, avec le mur de la tempête flottant tel une cape dans son sillage. L'océan. Son passage le déchaînait, faisant se percuter les vagues entre elles, soulevant des moutons dont ses vents s'emparaient. Il approcha d'un continent noir et s'éleva plus haut, encore plus haut. Il laissa la mer derrière lui. L'immensité du continent se déployait devant lui, un océan de roches. « Quelle étendue !» songea-t-il, impressionné. Il n'avait pas compris. Comment l'aurait-il pu ? Il dépassa les plaines brisées. Leur aspect donnait l'impression que quelque chose de très gros les avait frappées en leur centre, diffusant vers l'extérieur des fissures ondulantes. Elles aussi étaient plus grandes qu'il ne s'y serait attendu. Rien d'étonnant à ce que personne n'ait jamais réussi à s'orienter à travers les gouffres. Il y avait un vaste plateau au centre, mais entre la distance et l'obscurité, il n'y voyait pas grand-chose. Il distinguait des lumières, cependant. Quelqu'un vivait là. Le côté est des plaines était très différent du côté ouest, ponctué de hautes colonnes grêles, plateau presque vaincu par l'usure. Malgré tout, il distinguait une symétrie dans les plaines brisées. Vue d'en haut, elle ressemblait à une œuvre d'art. L'espace d'un instant, il les eut dépassées, continuant au nord-ouest pour s'élever au-dessus de la mer des Lances, une mer intérieure peu profonde, où des doigts rocheux brisés saillaient au-dessus de l'eau. Il passa au-dessus d'Aletkar, entrevit la grande ville de Kolinar, bâtie parmi des formations rocheuses évoquant des nageoires qui s'élevaient de la pierre. Puis il tourna vers le sud, se détournant de tout ce qu'il connaissait. Il survola des montagnes majestueuses, densément peuplées à leur sommet, avec des villages agglutinés près de fissures qui émettaient de la vapeur ou de la lave. Les pics de Manchecorne ? Il les laissa en proie à la pluie et au vent pour s'avancer en grondant dans des terres étrangères. Il survola des cités et des vastes plaines, des villages et des voies navigables sinueuses. Il y avait là de nombreuses armées. Kaladin dépassa des tentes aplaties contre le côté sous le vent des formations rocheuses, fermement maintenues par des pieux plantés dans la roche, avec des hommes cachés à l'intérieur. Il dépassa des flancs de collines où des soldats se serraient les uns contre les autres à l'intérieur de crevasses. Il dépassa de grands chariots de bois, conçus pour accueillir des pâles iris lorsqu'ils se trouvaient à la guerre. Combien de guerres le monde se livrait-il ? N'existait-il aucun endroit en paix ? Il emprunta un chemin vers le sud-ouest, soufflant en direction d'une ville bâtie dans des dépressions allongées du sol qui évoquaient des marques de pinces géantes déchirant le paysage. Il la survola en un clin d'œil, passant au-dessus d'un arrière-pays où la pierre elle-même était ondulée et striée, telle des vagues d'eau gelée. Le peuple de ce royaume avait la peau sombre, comme Sigzil. Le terrain continuait à s'étendre indéfiniment. Des villes par centaines, des villages par milliers, des gens sous la peau desquels apparaissaient faiblement des veines bleues. Un endroit où la pression de la tempête majeure en approche faisait jaillir l'eau par des cavités du sol. Une cité, où les gens vivaient dans de gigantesques stalactites creusées, accrochées en dessous d'une titanesque saillie abritée. Ils soufflaient vers l'ouest. La terre était si vaste, si énorme. Tant de peuples différents. Son esprit en était ébloui. La guerre semblait bien moins répandue à l'ouest qu'à l'est, ce qui le réconfortait, mais il demeurait préoccupé. La paix semblait une denrée si rare dans ce monde, Quelque chose attira son attention. D'étranges éclairs lumineux. Il souffla dans leur direction à l'avant de la tempête. Qu'étaient donc ces lumières? Elles apparaissaient par à-coups et formaient de très étranges motifs, presque comme des objets physiques palpables, des bulles de lumière sphériques hérissées de pics et de creux. Kaladin traversa une étrange cité formant un motif triangulaire avec de hautes pointes se dressant telles des sentinelles au centre et au coin. Les éclairs lumineux provenaient d'un bâtiment sur la pointe centrale. Kaladin savait qu'il passerait rapidement car, en tant que tempête, il ne pouvait pas se retirer. Il soufflait sans cesse vers l'ouest. Il ouvrit la porte à toute volée à l'aide de son vent, pénétra dans un long couloir au mur de carrelage rouge vif, fresques de mosaïque qui longeaient trop vite pour les distinguer. Il agita les jupes de grandes servantes aux cheveux dorés qui portaient des plateaux de nourriture ou des serviettes fumantes. Elles crièrent dans une langue étrangère, se demandant peut-être qui avait laissé une fenêtre sans la barrer en pleine tempête majeure. Les éclairs lumineux provenaient de droit devant lui. Totalement fascinant. Frôlant une jolie femme aux cheveux roux et dorés qui se recroquevillait de peur dans un coin, Kaladin franchit brusquement une porte. Il eut un bref aperçu de ce qui se trouvait au-delà. Un homme se dressait au-dessus de deux cadavres. Crâne pâle rasé, cheveux blancs. Le meurtrier tenait d'une main une épée longue et mince. Il leva les yeux de ses victimes et sembla presque voir Kaladin. Il possédait de larges yeux de chinove. Il était trop tard pour voir quoi que ce soit d'autre. Kaladin s'engouffra par la fenêtre, ouvrant grand les volets et filant dans la nuit. D'autres villes, des montagnes et des forêts défilèrent si vite que leurs contours étaient flous. À son approche, les plantes recourbaient leurs feuilles, les boutons de roche fermaient leurs coquilles, les arbustes rentraient leurs branches. Peu de temps après, il approcha de l'océan à l'ouest. Enfant de Tanavast, enfant d'honneur, enfant de celui qui a disparu depuis longtemps. Cette voix apparut soudainement, ébranla Kaladin. Il se débattit dans les airs. Le pacte sacré a été brisé. Ce bruit retentissant fit trembler le mur de la tempête lui-même. Kaladin heurta le sol, se séparant de la tempête. Il s'arrêta en dérapant, soulevant des gerbes d'éclaboussures sous ses pas. Les bourrasques le percutèrent violemment, mais il y était suffisamment intégré pour qu'elles ne le renversent ni ne l'ébranlent. Les hommes ne chevauchent plus les tempêtes. La voix tonitruante résonnait dans les airs. Le pacte sacré est rompu. « Enfant d'honneur !»« Je ne comprends pas !» hurla Kaladin à l'intérieur de la tempête. Un visage se forma devant lui, celui qu'il avait vu auparavant. Ce visage ancien aussi large que le ciel, aux yeux remplis d'étoiles. « Voici venir Abjection, le plus dangereux des 16. Partez maintenant !» Un souffle s'exerça contre lui. « Attendez !» s'écria Kaladin. « Pourquoi y a-t-il la guerre partout? Faut-il que nous nous battions toujours ?» Il ne savait pas très bien pourquoi il posait la question. Elle était sortie malgré lui. L'orage gronda, tel un vieux père songeur. Le visage disparut, éclatant en gouttelettes d'eau. Plus doucement, la voix répondit. « Abjection règne !» Kaladin s'éveilla, le souffle coupé. Il était entouré de sombres silhouettes qui le maintenaient contre le sol de pierre dure. Il hurla, ses vieux réflexes reprenant le dessus. Instinctivement, il tendit les mains sur les côtés, chacune agrippant une cheville et tirant pour déséquilibrer deux adversaires. Ils jurèrent et tombèrent à terre. Kaladin profita de l'instant pour se retourner tout en levant un bras en un geste ample. Il dégagea les mains qui le maintenaient à terre, se balança et se projeta vers l'avant, percutant violemment l'homme qui se trouvait juste devant lui. Kaladin roula par-dessus lui, se replia sur lui-même et atterrit debout, libéré des mains qui l'immobilisaient. Il fit volte-face, projetant autour de lui des gouttes de sueur. Où était sa lance? Il voulut s'emparer du couteau à sa ceinture. Pas de couteau, ni de lance. Allez aux foudres, Kaladin! C'était Teft. Kaladin leva la main vers sa poitrine, respirant avec application, dissipant ce rêve étrange. Le pont 4. Il était avec le pont 4. Les fulgiciens du roi avaient prédit une tempête majeure aux premières heures du matin. « Ne vous en faites pas !» dit-il à la masse d'hommes de pont qui l'avaient maintenu au sol et qui remuait et jurait à présent. « Qu'est-ce que vous faisiez ?»« Vous avez tenté de sortir pendant la tempête !» dit Moash d'une voix accusatrice en s'extirpant de la mêlée. La seule lumière provenait d'une unique sphère de diamant que l'un des hommes avait installée dans le coin. « Ah !» ajouta Rock en se levant et en s'époustant. « Vous aviez ouvert la porte sur la pluie. Vous regardiez fixement dehors, comme si on vous avait frappé sur la tête avec une pierre. Nous avons dû vous tirer en arrière. Vous n'aimeriez pas passer encore 2 semaines malade au lit, hein ?» Kaladin s'apaisa. Les accalmies, les pluies tranquilles qui tombaient dans le sillage des tempêtes majeures, se poursuivaient dehors, aspergeant le toit de gouttes.
« Vous ne vouliez pas vous réveiller ?» dit Sigzil.
Kaladin regardait l'Azéen qui était assis et tournait le dos au mur de pierre. Il n'avait pas essayé de maintenir Kaladin au sol.
« Vous faisiez une sorte de cauchemar de fièvre. »«
Je me sens très bien, » répondit Kaladin. Ce n'était pas tout à fait vrai. Sa tête lui faisait mal et il était épuisé. Il inspira profondément et recula les épaules, s'efforçant de chasser la fatigue. La sphère vacilla dans le coin, puis sa lumière disparut, les laissant dans le noir.
« Nom des foudres !» marmonna Moash. « Cette anguille de gaz, il nous a encore donné des sphères éteintes !»
Kaladin traversa prudemment la baraque où régnait un noir absolu. Son mal de tête disparut tandis qu'il cherchait la porte à tâtons. Il l'ouvrit d'une poussée, laissant pénétrer la faible lumière d'un matin couvert. Les vents étaient modérés, mais la pluie tombait toujours. Il sortit et se retrouva rapidement trempé. Les autres hommes de pont le suivirent dehors, et Rock lança à Kaladin un petit morceau de savon. Comme la plupart des autres, Kaladin ne portait que son pagne, et il se savonna sous la verse froide. Le savon sentait l'huile, et le sable qu'il contenait le rendait grumeleux. Pas de savon doux pour les hommes de pont. Kaladin lança le morceau de savon à Bizig, un homme de pont maigre au visage anguleux, lequel l'accepta avec gratitude. Bizig ne parlait pas beaucoup, et se savonna à son tour, tandis que Kaladin laissait la pluie rincer le savon de son corps et de ses cheveux. Sur le côté, Rock utilisait un bol d'eau pour se raser et tailler sa barbe de manche-corne, longue sur les côtés et couvrant ses joues, mais rasée en dessous des lèvres et du menton. Elle contrastait curieusement avec son crâne, qu'il rasait en son milieu, partant juste au-dessus des sourcils pour remonter en arrière. Il taillait ras le reste de ses cheveux. La main de Rock était agile et prudente, et il ne se faisait jamais la moindre entaille. Lorsqu'il en eut terminé, il se leva et fit signe aux hommes qui attendaient derrière lui. Un par un, il rasa tous ceux qui le souhaitaient. De temps à autre, il s'arrêtait pour affûter le rasoir à l'aide de sa pierre à aiguiser et de son cuir de barbier. Kaladin leva la main vers sa propre barbe. Il n'avait pas été rasé de près depuis qu'il avait rejoint l'armée d'Amaram, si longtemps auparavant. Quand vint le tour de Kaladin, le grand manche-corne éclata de rire.
« Asseyez-vous, mon ami, asseyez-vous. C'est bien que vous soyez venu. Votre visage ressemble plus à des branches d'éricantes qu'à une barbe digne de ce nom. »«
Rasez-la entièrement, » dit Kaladin en s'asseyant sur la souche. « Et je préférerais ne pas avoir de coupe étrange comme la vôtre. »
« Ah !» dit Rock en affûtant son rasoir. « Vous êtes un bastère, mon bon ami. Ce serait pas approprié que vous portiez un Umakaban. Je serais obligé de vous rosser copieusement si vous essayez cette chose. »«
Je croyais que se battre était indigne de vous. »«
C'est autorisé à plusieurs occasions importantes, » répondit Rock. « Maintenant, arrêtez de parler autant. » « À moins que vous ne vouliez perdre une lèvre. »
Rock se mit à tailler la barbe, puis étala du savon et le rasa, en commençant par la joue gauche. Kaladin n'avait encore jamais laissé quelqu'un d'autre le raser. Lorsqu'il était parti à la guerre, il était encore assez jeune pour n'en avoir quasiment pas besoin. En grandissant, il avait appris à le faire lui-même. Rock était adroit, et Kaladin ne sentit ni coupure, ni entaille. Au bout de quelques minutes, Rock recula. Kaladin leva les doigts vers son menton et toucha sa peau lisse et sensible. Son visage lui semblait froid, étrange au toucher. Il le ramenait en arrière, le retransformait de manière infime en l'homme qu'il avait été. Étrange qu'un rasage puisse faire une telle différence. Voilà déjà des semaines que j'aurais dû le faire. Les accalmies s'étaient transformées en bruine, annonçant les derniers murmures de l'orage. Kaladin se leva, laissant l'eau nettoyer de sa poitrine les derniers cheveux coupés. Denis, au visage poupin, le dernier de ceux qui attendaient, s'assit pour se faire raser à son tour. Il en avait à peine besoin. « Ça vous va bien d'être rasé ?» déclara une voix. Kaladin se retourna pour voir Sigzil adossé au mur de la baraque, juste en dessous du surplomb du toit. « Votre visage possède des traits forts. Il est ferme et carré, avec un menton fier. Mon peuple appellerait ça un visage de meneur. »«
Je ne suis pas un pâle iris, » répondit Kaladin en crachant sur le côté.
« Vous les détestez tellement ?»«
Je déteste leurs mensonges, » précisa Kaladin. « Je déteste les avoir crus honorables. »«
Et vous les renverseriez ?» demanda Sigzil d'une voix curieuse. « Vous dirigeriez à leur place ?»«
Non. »
Cette réponse sembla surprendre Sigzil. Sur le côté, Syl apparut enfin, ayant terminé de batifoler dans les vents de la tempête majeure. Il redoutait toujours, juste un peu, qu'elle s'en aille avec eux et l'abandonne. « Vous n'avez donc aucun désir de punir ceux qui vous ont traité ainsi ?» demanda Sigzil.
« Oh, je suis ravi de les punir, » dit Kaladin, « mais je n'ai aucune envie de prendre leur place, pas plus que de me joindre à eux. »« Moi, je me joindrai à eux en un battement de cœur, » dit Moash, surgissant derrière eux. Il croisa les bras sur sa poitrine maigre et musclée. « Si c'était moi qui commandais, les choses changeraient. Ce seraient les pâles iris qui travailleraient dans les mines et les champs. Ils porteraient les ponts et mourraient sous les flèches des Parchendi. »
« Ça ne risque pas d'arriver, » dit Kaladin, « mais je ne peux pas vous reprocher d'essayer. »
Sigzil hocha la tête, songeur.
« Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a déjà entendu parler du pays de Baba Tarnam ?»«
Non, » répondit Kaladin en regardant en direction du camp. Les soldats s'activaient eux aussi à présent. Un grand nombre d'entre eux se lavaient également. « Mais c'est un drôle de nom pour un pays. »
Sigzil renifla. Personnellement, j'ai toujours trouvé qu'Aletkar était un nom ridicule. J'imagine que tout dépend de l'endroit où l'on a grandi.
Alors pourquoi parlez-vous de Baba... commença Moash.
Baba Tarnam, dit Sigzil. J'y suis allé une fois avec mon maître. Ils ont des arbres très étranges. La plante tout entière, tronc inclus, s'allonge à l'approche d'un orage, comme si elle était construite sur des charnières. On m'a jeté 3 fois en prison pendant notre visite. « Les Babats sont très soucieux de la façon dont vous parlez. Mon maître a été très mécontent de la somme qu'il a dû verser pour me libérer. Bien entendu, je crois qu'il profitait de n'importe quel prétexte pour emprisonner un étranger, comme il savait que mon maître avait de gros moyens. » Il sourit d'un air mélancolique. « L'un de ces emprisonnements était vraiment de ma faute. Les femmes de ce pays, voyez-vous, ont ce type de veine apparente sous la peau. » Certains visiteurs jugent ça perturbant, mais je trouvais ces dessins magnifiques, presque irrésistibles.
Kaladin fronça les sourcils. N'avait-il pas vu quelque chose de semblable dans son rêve ?
Je parle des Babats parce qu'ils ont un curieux système de gouvernement, reprit Sigzil. Voyez-vous, ce sont les personnes âgées qui occupent les hautes fonctions. Plus vous êtes âgé, plus vous possédez d'autorité. Chacun se voit accorder l'occasion de diriger s'il vit assez longtemps. Le roi est appelé le Très Ancien.
Ça me paraît juste, dit Moash, qui s'avança pour rejoindre Sigzil en dessous du surplomb. Mieux que de choisir les dirigeants en fonction de la couleur de leurs yeux.
Ah oui, dit Sigzil. Les Babates sont très justes. Actuellement, c'est la dynastie Monavaka qui règne.
Comment peut-on avoir une dynastie quand on choisit ses dirigeants en fonction de leur âge ? Demanda Kaladine.
C'est très facile, en réalité, expliqua Sigzil. Il suffit d'exécuter toute personne qui devient assez âgée pour rivaliser avec vous.
Un frisson parcourut Kaladine. Ils font vraiment ça ?
Oui, malheureusement, répondit Sigzil. Il règne une grande agitation à Babatarnam. C'était dangereux de s'y rendre quand nous l'avons fait. Les Monavaka tiennent à s'assurer que ce soit les membres de leur famille qui vivent le plus longtemps. Depuis 50 ans, personne d'extérieur à leur famille n'est devenu très ancien. Tous les autres ont été assassinés, exilés ou sont morts sur le champ de bataille.
C'est horrible, dit Kaladine.
Je doute que beaucoup de gens pensent le contraire, mais il y a une raison si je mentionne ces horreurs. Voyez-vous, l'expérience m'a appris que, quel que soit l'endroit où vous alliez, vous trouverez toujours quelqu'un qui abuse de son pouvoir.
Il haussa les épaules.
La couleur des yeux n'est pas une méthode si curieuse comparée à beaucoup d'autres que j'ai vues. Si vous deviez renverser les Palsiris et prendre le pouvoir, Moash, je doute que le monde devienne un endroit tellement différent. Il y aurait toujours des abus, simplement vis-à-vis d'autres gens.
Kaladine acquiesça lentement. Mais Moash secoua la tête.
« Non, je changerai le monde, Sigzil, et je compte bien le faire. »«
Comment allez-vous vous y prendre ?» demanda Kaladine amusé.
« J'ai pris part à cette guerre pour me procurer une lame d'éclat, » répondit Moash, « et je compte toujours le faire, d'une manière ou d'une autre. »
Il rougit, puis se détourna.
« Vous avez rejoint l'armée en supposant qu'on allait faire de vous un lancier, n'est-ce pas ?»
demanda Kaladine. Moash hésita, puis hocha la tête.
« Certains de ceux qui se sont engagés avec moi sont effectivement devenus soldats, mais la plupart ont été envoyés aux équipes de pont. »
Il regarda Kaladine avec une expression qui s'assombrissait.
« Votre plan a intérêt à fonctionner, petit lord. La dernière fois que je me suis échappé, on m'a battu. On m'a dit que si je récidivais, je gagnerais une marque d'esclave à la place. »
Je n'ai jamais promis que ça fonctionnerait, Moash. Si vous avez une meilleure idée, allez-y, partagez-la. Moash hésita.
Eh bien, si vous nous apprenez vraiment à utiliser la lance comme vous l'avez promis, alors je crois que je m'en moque.
Kaladine regarda autour de lui, s'assurant prudemment que ni Gaz ni des hommes d'autres équipes ne se trouvaient à proximité.
Soyez discret, marmonna Kaladine à Moash. N'en parlez pas. En dehors des gouffres.
La pluie avait presque cessé. Bientôt les nuages allaient se disperser. Moash lui lança un regard noir, mais garda le silence.
Vous ne pensez pas réellement qu'il vous laisserait obtenir une lame d'éclat, n'est-ce pas ? Demanda Sigzil.
N'importe quel homme peut en remporter une, répondit Moash. Libre ou esclave, pâle ou sombre iris, c'est la loi.
À supposer qu'ils y obéissent, dit Kaladine en soupirant.
J'y arriverai d'une manière ou d'une autre, répéta Moash.
Il regarda sur le côté où Rock refermait son rasoir et essuyait l'eau de pluie de son crâne chauve. Le manche-corne s'approcha d'eux.
J'ai entendu parler de cet endroit que vous citiez, Sigzil, dit Rock. Babatarnam. Mon cousin s'y est rendu une fois. Ils ont des escargots très goûteux.
Ça représente un long voyage pour un manche-corne, fit observer Sigzil.
C'est presque aussi loin que pour un naséen, répondit Rock. Beaucoup plus même, comme vous avez de toutes petites jambes.
Sigzil se renfrogna.
J'ai déjà vu des gens comme vous,
dit Rock en croisant les bras.
Quoi donc ? Demanda Sigzil. Des Aséens ? Nous ne sommes pas si rares.
« Non, pas votre espèce, dit Rock. Votre genre. Quel nom est-ce qu'on leur donne, ceux qui visitent des endroits tout autour du pays et racontent aux autres ce qu'ils ont vu? Un chante-monde. Oui, c'est le nom adéquat, non ?»
Sigzil se figea, puis il se redressa soudain et s'éloigna de la baraque d'un pas raide, sans un regard en arrière.
Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça ? Demanda Rock. J'ai pas honte d'être cuisinier. Pourquoi est-ce qu'il a honte d'être un chante-monde ?
Un chante-monde ? Demanda Kaladine. Rock haussa les épaules.
Je sais pas grand-chose sur eux, ce sont des gens étranges. Ils disent qu'ils doivent voyager dans tous les royaumes et parler aux gens qu'ils y rencontrent des autres royaumes. Ils sont un peu comme des conteurs, même s'ils se considèrent comme beaucoup plus que ça.
Il doit être une sorte de clarissime dans son pays, dit Moash. À entendre sa façon de parler, je me demande comment il a atterri avec des crémillons comme nous.
Eh, dit Denis en les rejoignant. Qu'est-ce que vous avez fait, Sigzil? Il avait promis de me parler de ma patrie.
Ta patrie? Dit Moash au jeune homme. Tu viens d'Aletkar.
Sigzil dit que mes yeux violets ne sont pas originaires d'Aletkar. Il pense que je dois avoir du sang Veden.
Tes yeux ne sont pas violets, protesta Moash.
Bien sûr que si, répondit Denis. On le voit, la lumière du soleil. Simplement, ils sont très sombres.
Ah! S'exclama Rock. Si tu viens de Vedenar, nous sommes cousins. Les pics sont proches de Vedenar. Parfois, les gens y ont de bons cheveux roux, comme nous.
Réjouissez-vous que personne ne croie que vos yeux sont rouges, Denis, dit Kaladine. Moash, allez rassembler vos divisions et faites passer le mot à Teft et Askar. Je veux que les hommes graissent leurs sandales et leurs gilets pour les protéger de l'humidité. Les hommes soupirèrent, mais s'exécutèrent. L'armée fournissait la graisse. Alors qu'on n'accordait aucune valeur aux hommes de pont, le cuir de porc de qualité et le métal des boucles n'étaient pas bon marché. Tandis que les hommes se rassemblaient pour travailler, le soleil perça à travers les nuages. La chaleur était agréable sur la peau de Kaladine, humide de pluie. Il y avait quelque chose de rafraîchissant lorsque le soleil succédait à la froideur d'une tempête majeure. De minuscules polypes de boutons de roche s'ouvrirent sur le côté du bâtiment, absorbant l'air humide. Il allait falloir les retirer. Les boutons de roche rongeraient la pierre des murs, laissant marques et cicatrices. Les boutons étaient d'un cramoisi soutenu. On était Chachel, troisième jour de la semaine. Les marchés aux esclaves proposeraient de nouvelles marchandises, ce qui signifiait de nouveaux hommes de pont. L'équipe de Kaladine courait un grave danger. Yaké avait reçu une flèche dans le bras lors de leur dernière course, et Delp en avait récolté une dans le cou. Kaladine n'avait rien pu faire pour lui, et avec Yaké blessé, l'équipe se trouvait réduite à 28 membres en mesure de porter le pont. Comme ils s'y attendaient, une heure après le début de leurs activités matinales, s'occuper du matériel, graisser le pont, tandis que Lopen et David s'en allaient chercher leur marmite de gruau matinale pour la rapporter au dépôt de bois, Kaladine entrevit des soldats conduisant vers le dépôt une rangée d'hommes sales aux pas traînants. Kaladine fit signe à Teft, et tous deux s'en allèrent à la rencontre de Gaz.
« Avant de m'enguirlander !» dit Gaz en voyant approcher Kaladine. « Comprenez que je ne peux rien changer ici !»
Les esclaves étaient agglutinés et surveillés par deux soldats au manteau vert froissé.
« Vous êtes sergent de pont, » répondit Kaladine.
Teft s'arrêta près de lui. Il ne s'était pas fait raser, mais il s'était mis à tailler soigneusement sa courte barbe grise.
« Ouais, » dit Gaz, « mais je ne m'occupe plus d'assigner les corvées. La clarissime Achal veut s'en charger elle-même, au nom de son mari, bien entendu. »
Kaladine serra les dents. Elle allait priver le pont 4 d'effectifs.
« Donc nous n'aurons rien. »«
J'ai pas dit ça !»
répondit Gaz, avant de cracher de la salive noire sur le côté.
« Elle vous en a donné un !»«
C'est déjà ça, » songea Kaladine. Il y avait une bonne centaine d'hommes dans le nouveau groupe.
« Lequel ?»« Il a intérêt à être assez grand pour porter le pont. »«
Ça oui, il est grand !»
dit Gaz, en faisant signe à quelques esclaves de s'écarter.
« Et bon travailleur en plus !»
Les hommes s'exécutèrent, révélant un homme qui se tenait à l'arrière. Il était un peu plus petit que la moyenne, mais assez grand malgré tout pour porter un pont. Seulement, il avait la peau marbrée de noir et de rouge.
« Un parche ?» demanda Kaladine.
Près de lui, Teft jura tout bas.
« Pourquoi pas ?»
demanda Gaz.
Ce sont des esclaves parfaits. Ils répondent jamais.
Mais nous sommes en guerre contre eux, dit Teft.
Nous sommes en guerre contre une tribu d'anomalies, dit Gaz. Ceux des plaines brisées sont très différents des gaillards qui travaillent pour nous.
Cette partie-là, au moins, était vraie. Il y avait beaucoup de parches dans le camp de guerre, et malgré les marques sur leur peau, il existait peu de similitudes entre eux et les guerriers Parchendi. Aucun n'avait ces étranges armures de carapace leur poussant sur la peau, par exemple. Kaladin étudia l'homme chauve et robuste. Le parche regardait fixement le sol. Il ne portait qu'un pagne et dégageait une impression d'épaisseur. Ses doigts étaient plus gros que ceux des humains, ses bras plus costauds, ses cuisses plus larges.
« Il est domestiqué, » dit Gaz. « Vous n'avez pas à vous en faire. »
Je croyais que les parches étaient trop précieux pour qu'on les utilise lors des courses au pont, dit Kaladin.
C'est juste une expérience, répondit Gaz. La clarissime Achal veut savoir tout ce qui est possible. Il a été difficile ces derniers temps de trouver assez d'hommes de pont, et les parches pourraient aider à combler les manques.
C'est stupide, Gaz, dit Teft. Je me moque bien qu'il soit domestiqué ou pas. Lui demander de porter un pont contre d'autres de son espèce, c'est de la bêtise pure. Et s'il nous trahit ?
Gaz haussa les épaules.
Nous verrons si ça se produit.
Mais arrêtez, Teft, dit Kaladin. Vous, le parche, suivez-moi. Il se détourna pour redescendre la colline. Le parche le suivit docilement. Teft jura et les imita.
Quelle ruse est-ce qu'ils essayent de nous jouer, à votre avis ? Demanda Teft.
Je suppose que c'est ce qu'il vient de nous dire. Une expérience pour voir si l'on peut faire confiance à un parche pour porter les ponts. Peut-être qu'il fera ce qu'on lui dit, ou peut-être qu'il refusera de courir, ou qu'il essaiera de nous tuer. Quoi qu'il en soit, c'est elle qui gagne.
Par l'haleine de Kelek, jura Teft, nous voilà dans une situation plus noire que l'estomac d'un manche-corne.
Elle veut nous voir morts, Kaladin. Je sais. Il regarda le parche par-dessus son épaule. Il était un peu plus grand que la plupart. Le visage un peu plus large, mais tous se ressemblaient à ses yeux. Les autres membres du pont 4 s'étaient alignés lorsque Kaladin revint. Ils regardèrent approcher le parche avec surprise et incrédulité. Kaladin s'arrêta devant lui, Teft à ses côtés, le parche derrière. Savoir l'un d'entre eux derrière lui le mit mal à l'aise. Il fit un pas de côté d'un air désinvolte. Le parche resta planté là, yeux baissés, épaules voûtées. Kaladin regarda les autres. Ils avaient deviné, et l'hostilité montait en eux. « Père des tempêtes, » se dit Kaladin, « il existe vraiment, dans ce monde, quelque chose de plus bas qu'un homme de pont. Un homme de pont parche. » Les parches coûtaient peut-être plus que la plupart des esclaves, mais les chules aussi. En réalité, c'était une bonne comparaison car on exploitait les parches comme des animaux. Voyant la réaction des autres, Kaladin prit la créature en pitié, ce qui le mit en colère contre lui-même. Fallait-il toujours qu'il réagisse ainsi ? Le parche était dangereux, une distraction pour les autres hommes, un facteur dont il ne pouvait pas dépendre. Un handicap. Transformez un handicap en avantage chaque fois que vous le pourrez. Ces mots avaient été prononcés par un homme qui ne se souciait que de sa propre peau. Nom des foudres, songea Kaladin. Je suis un idiot, un pauvre crétin d'idiot. Ce n'est pas la même chose, pas du tout.
Le parche, demanda-t-il, avez-vous un nom ?
L'homme secoua la tête. Les parches parlaient rarement. Ils le pouvaient, mais il fallait les y pousser.
« Eh bien, nous allons bien devoir vous en donner un, » dit Kaladin. « Que pensez-vous de Shen ?»
L'homme haussa les épaules.
« Très bien, dans ce cas, » dit Kaladin aux autres. « Voici Shen. C'est l'un des nôtres à présent. »«
Un parche ?» demanda Lopen, qui se prélassait près de la baraque. « Je l'aime pas, Gancho. Regardez comme il me toise. »
« Il va tous nous tuer pendant notre sommeil !» ajouta Moash.
Non, c'est une bonne chose, dit Scar. On n'aura qu'à le faire courir à l'avant. Il récoltera une flèche à notre place.
Syl atterrit sur l'épaule de Kaladin, baissant les yeux vers le parche. Ses yeux étaient remplis de tristesse. Si vous deviez renverser les pâles iris et prendre le pouvoir, il y aurait toujours des abus, simplement vis-à-vis d'autres gens. Mais c'était un parche. Il faut faire le nécessaire pour rester en vie.
Non, dit Kaladin. Shen est l'un d'entre nous maintenant. Je me moque bien de savoir ce qu'il était avant. Nous sommes du pont 4, lui aussi. Mais, commença Scar. Non, dit Kaladin. Nous n'allons pas le traiter comme les pâles iris nous traitent, Scar. Ce sera mon dernier mot. Rock, trouvez-lui des sandales et un gilet.
Les hommes de pont se dispersèrent, à l'exception de Teft.
Et notre projet ?
Demanda-t-il tout bas.
On continue, dit Kaladin.
Cette idée sembla mettre Teft mal à l'aise.
Que voulez-vous qu'il fasse, Teft ? Demanda Kaladin.
Nous dénoncer ? Je n'ai jamais entendu un parche dire plus d'un seul mot à la fois. Je doute qu'il puisse jouer les espions.
J'en sais rien, hein ? Grommela Teft. Mais je les ai jamais aimés. Ils semblent capables de parler entre eux sans émettre de son. J'aime pas leur apparence.
Teft, dit Kaladin d'une voix neutre, si nous rejetions les hommes de pont en nous fondant sur leur apparence, il y a des semaines que nous vous aurions chassés à cause de votre figure.
Teft grommela, puis sourit.
Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda Kaladin.
Rien, dit-il. C'est seulement que l'espace d'un instant, vous m'avez rappelé des jours meilleurs, avant que cette tempête ne s'abatte sur moi. Vous comprenez bien à quel point c'est improbable. Réussir à nous enfuir, échapper à un homme comme Sadeas ?
Kaladin hocha gravement la tête.
Parfait, dit Teft. Eh bien, puisque vous n'avez pas envie de le faire, je vais garder à l'œil notre ami Shen, là-bas. Vous pourrez me remercier quand je l'aurai empêché de vous planter un couteau dans le dos.
Je ne crois pas que nous ayons à nous en faire.
Vous êtes jeune, répondit Teft. Moi, je suis vieux.
Ce qui vous rend plus sage, je suppose ?
Damnation, certainement pas, répondit Teft. Tout ce que ça prouve, c'est que j'ai une plus grande expérience de la survie que vous. Je vais le surveiller.
Vous, contentez-vous d'entraîner le reste de cette bande déclopée à...
Il laissa sa phrase en suspens et regarda autour de lui.
À ne pas trébucher sur place dès l'instant que quelqu'un les menace, compris ?
Kaladin hocha la tête.
Voilà qui ressemblait beaucoup à ce que dirait l'un des sergents de Kaladin.
Teft insistait pour ne pas parler de son passé, mais il n'avait jamais semblé aussi abattu que la plupart des autres.
Très bien, dit Kaladin. Assurez-vous que les hommes s'occupent de leur matériel.
Qu'est-ce que vous allez faire ?
Marcher, répondit Kaladin, et réfléchir.
Une heure plus tard, Kaladin errait toujours à travers le camp de guerre de Sadeas. Il allait devoir regagner rapidement le dépôt de bois. Ses hommes étaient de nouveau de corvée de gouffre et n'avaient reçu que quelques heures de liberté pour s'occuper du matériel. Dans sa jeunesse, il ne comprenait pas pourquoi son père sortait souvent marcher pour réfléchir. Plus Kaladin vieillissait, plus il se surprenait à imiter les habitudes de son père. Marcher, bouger, agissait sur son esprit. Le défilé constant des tentes, le cycle des couleurs, l'agitation des hommes, l'ensemble créait une impression de changement et donnait envie à ses pensées de bouger, elles aussi.
« Ne lésine pas sur les paris quand il s'agit de ta vie, Kaladin, lui avait toujours répété Dourque. Ne mise pas une brisure quand tu as la poche remplie de marques. Parie tout ou quitte la table. »
Syl dansait devant lui, sautant d'une épaule à l'autre dans la rue bondée. De temps à autre, elle atterrissait sur la tête de quelqu'un qui passait dans l'autre sens et y restait assise en tailleur tandis qu'elle croisait Kaladin. Toutes ses sphères étaient sur la table. Il était déterminé à aider les hommes de pont. Mais quelque chose le tracassait, une inquiétude qu'il ne parvenait pas encore à définir.
« Tu as l'air troublé, »
dit Syl en atterrissant sur son épaule. Elle portait un bonnet et une veste par-dessus sa robe habituelle, comme pour imiter les commerçants tout proches.
Ils passèrent devant la boutique de l'apothicaire. Kaladin lui accorda à peine un coup d'œil. Il n'avait pas de sève de Bosseline à vendre. Il tomberait bientôt à court de réserve. Il avait promis à ses hommes de les entraîner à se battre, mais ça demanderait du temps. Et une fois entraînés, comment sortiraient-ils des lances des gouffres pour s'en servir lors de leur évasion? Il serait difficile de les ramener, compte tenu de la façon dont on les fouillait. Ils pourraient commencer à se battre au moment de la fouille, mais ça ne ferait qu'alerter tout le camp de guerre. Que de problèmes. Plus il y réfléchissait, plus sa tâche semblait impossible. Il céda le passage à quelques soldats au manteau vert forêt. Leurs yeux marrons les désignaient comme des citoyens ordinaires, mais les nœuds blancs à leurs épaules indiquaient qu'il s'agissait d'officiers citoyens, chefs d'escouade et sergents.
« Kaladin ?»
demanda Syl. Faire sortir les hommes de pont est la tâche la plus vaste que j'ai jamais affrontée. Beaucoup plus difficile que mes autres tentatives d'évasion quand j'étais esclave. Et j'ai échoué chaque fois. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si je ne me prépare pas à une autre catastrophe.
« Ce sera différent cette fois-ci, Kaladin, » déclara Syl. « Je le sens. »
On dirait le genre de choses que Tien aurait pu dire. Sa mort prouve que les mots ne changent rien, Syl. Avant que tu ne me poses la question, je ne suis pas en train de sombrer de nouveau dans le désespoir, mais je ne peux pas ignorer ce qui m'est arrivé. Ça a commencé avec Tien. Depuis ce moment-là, on dirait que chaque fois que j'ai choisi spécifiquement des gens à protéger, ils ont trouvé la mort. Chaque fois. Au point que je me demande si le Tout-Puissant en personne ne me déteste pas.
Elle fronça les sourcils. Je crois que tu dis des bêtises. Et puis si c'était le cas, il détesterait les gens qui sont morts, pas toi. Tu as survécu, toi.
J'imagine que c'est égocentrique de croire que tout tourne autour de moi. Mais, Syl, je survis chaque fois quand personne d'autre ne le fait, encore et encore. Mon ancienne escouade de lanciers, la première équipe de pont avec laquelle j'ai couru, les nombreux esclaves que j'ai aidés à s'échapper. Il existe un schéma, et il devient de plus en plus difficile à ignorer.
Peut-être que le Tout-Puissant te préserve, suggéra Syl.
Kaladin hésita, en pleine rue. Un soldat de passage jura et l'écarta violemment. Quelque chose n'allait pas dans toute cette conversation. Kaladin alla se placer près d'un tonneau destiné à collecter l'eau de pluie, installé entre deux boutiques au mur de pierre robuste. « Syl, dit-il, tu as parlé du Tout-Puissant. »«
Tu l'as fait le premier. » »«
Ignore ce détail pour l'instant. Est-ce que tu crois au Tout-Puissant ? » ?»« Tu sais s'il existe vraiment ?» Syl pencha la tête.
« Je n'en sais rien. » Tiens, il y a beaucoup de choses que j'ignore, mais je devrais connaître celle-ci, je crois. Peut-être.
Elle semblait totalement perplexe. Je ne sais pas trop si je suis croyant, dit Kaladin en regardant vers la rue. Ma mère l'était, et mon père parlait toujours des héros avec déférence. Je pense qu'il était croyant lui aussi, mais peut-être simplement parce qu'on affirme que les traditions de guérison nous viennent des héros. Les ardents nous ignorent, nous autres, les hommes de pont. Avant, ils rendaient visite aux soldats, quand j'étais dans l'armée d'Amaram. Mais je n'en ai pas vu un seul dans le dépôt de bois. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Le fait de croire n'a jamais semblé beaucoup aider les croyants.
Donc, si tu ne crois pas, il n'y a aucune raison de penser que le Tout-Puissant te déteste.
Sauf que, répondit Kaladin, si le Tout-Puissant n'existe pas, il peut très bien y avoir autre chose. Je n'en sais rien. Une grande partie des soldats que j'ai connus étaient superstitieux. Ils parlaient de choses comme l'ancienne magie et la veille nuit, des choses qui pouvaient porter malchance. Je me moquais d'eux. Mais combien de temps est-ce que je peux continuer à ignorer cette possibilité? Et si tous ces échecs pouvaient se résumer à quelque chose de ce genre? Syl semblait perturbé. La veste et le bonnet qu'elle portait se changèrent en brume, et elle s'enveloppa de ses deux bras comme si les commentaires de Kaladin lui donnaient froid. Abjection règne. Syl, dit-il, songeur, en se rappelant ce rêve étrange, tu as déjà entendu parler de quelque chose qu'on appelle abjection ?
Je ne parle pas du concept, je parle d'une personne ou de quelque chose qu'on appelle par ce nom. Syl se mit soudain à siffler. Un bruit dérangeant de bête sauvage. Elle s'éloigna vivement de son épaule, se transforma en rayon lumineux furtif et s'envola sous l'avant-toit du bâtiment voisin. Il cligna des yeux. « Syl !» l'appela-t-il, attirant l'attention des deux lavandières de passage. La sprène ne réapparut pas. Kaladine croisa les bras. Ce mot avait déclenché chez elle une réaction violente. Pourquoi donc ? Une série de jurons sonores interrompit le fil de ses pensées. Kaladine se retourna pour voir un homme surgir d'un bâtiment de pierre de l'autre côté de la rue, poussant devant lui une femme à moitié nue. L'homme avait des yeux bleu vif, et son manteau vert forêt qu'il portait sur le bras arborait des nœuds rouges à l'épaule. Un officier pâle iris, pas très haut placé. Peut-être du 7e dan. La femme à demi vêtue tomba à terre. Elle serrait l'avant ouvert de sa robe contre sa poitrine, en larmes, avec ses longs cheveux noirs lâchés et noués par deux rubans rouges. La robe était celle d'une femme pâle iris, au détail près que les deux manches étaient courtes, dévoilant sa sage main. Une courtisane. L'officier continua à jurer tout en tirant sur son manteau. Il ne le reboutonna pas. Il s'avança plutôt pour asséner un coup de pied dans le ventre de la prostituée. Elle eut un hoquet, et des sprennes de douleur jaillirent du sol et se rassemblèrent autour d'elle. Personne ne s'arrêta dans la rue. Mais la plupart des gens pressèrent le pas, tête baissée. Avec un grognement, Kaladine bondit sur la chaussée, dépassant un groupe de soldats. Puis, il s'arrêta. Trois hommes en bleu sortirent de la foule, s'interposant d'un air décidé entre la femme et l'officier en vert. Un seul était pâle iris, à en juger par les nœuds à ses épaules. Des nœuds dorés. Il ne provenait manifestement pas de l'armée de Sadéas, pas avec ses manteaux bleus soigneusement repassés. L'officier de Sadéas hésita. L'officier en bleu posa la main sur la poignée de son épée. Les deux autres tenaient des hallebardes à la tête luisante en forme de demi-lune. Un groupe de soldats en vert sortit de la foule et entreprit de cerner ceux vêtus de bleu. Une tension naquit dans l'air, et Kaladine s'aperçut que la rue, bondée quelques instants plus tôt, se vidait rapidement. Il était pratiquement seul, le dernier à regarder les trois hommes en bleu, à présent entouré de sept hommes en vert. La femme se trouvait toujours à terre et reniflait. Elle se blottit tout près de l'officier vêtu de bleu. L'homme qui l'avait frappé, une brute au front épais et à la tignasse noire mal peignée, se mit à boutonner le côté droit de son manteau.
« Votre place n'est pas ici, mes amis, on dirait que vous vous êtes aventurés dans le mauvais camp de guerre. »
« Nous sommes ici pour des affaires légitimes, » répondit l'officier en bleu.
Il avait des cheveux blonds dorés, parsemés de noir alléti, ainsi qu'un visage séduisant. Il tenait la main devant lui comme s'il souhaitait serrer celle de l'officier de Sadéas.
« Venez, » dit-il d'une voix aimable, « quel que soit votre problème avec cette femme, je suis sûr qu'on peut le résoudre sans colère ni violence. »
Kaladine recula sous l'avant-toit où Syl s'était caché.
« C'est une putain !» dit l'homme de Sadéas. « Je le vois bien !» répondit l'homme en bleu, main toujours tendue. L'officier en vert cracha dessus.
« Je vois !» dit l'homme blond. Il recula la main et des lignes de brume sinueuses se rassemblèrent dans les airs, se solidifiant dans ses mains qu'il levait en une posture offensive. Une épée massive apparut, d'une longueur égalant la taille d'un homme. Elle dégoulinait d'eau qui se condensait le long de sa lame, froide et luisante. Elle était magnifique, longue et sinueuse, son unique tranchant ondulant comme une anguille et recourbé vers la pointe. Le dos comportait des arêtes délicates, pareilles à des formations rocheuses. L'officier de Sadéas recula en titubant et tomba, le visage blême. Les soldats en vert se dispersèrent. L'officier leur adressa un juron, l'un des plus grossiers que Kaladine ait jamais entendu. Mais aucun ne revint l'aider. Avec un dernier regard noir, il monta les marches en titubant vers le bâtiment. La porte claqua, laissant la chaussée étrangement silencieuse. Kaladine était seul dans la rue, en dehors des soldats en bleu et de la courtisane tombée à terre. Le porte-éclat lui jeta un regard, mais estima visiblement qu'il ne représentait aucune menace. Il plongea son épée dans les pierres. La lame s'y enfonça aisément,
et resta planté avec la poignée vers le ciel.
Le jeune porte-éclat tendit alors la main à la prostituée tombée à terre.
« Par curiosité, qu'est-ce que vous lui avez fait ?»
Hésitante, elle lui prit la main et le laissa l'aider à se relever. Il a refusé de payer, en affirmant que sa réputation en faisait un plaisir pour moi. Elle grimaça. Il m'a donné un coup de pied quand j'ai fait un commentaire sur sa réputation. Apparemment, ce n'était pas ce pour quoi il pensait être connu.
Le clarissime gloussa de rire. « Je suggère qu'à partir de maintenant, vous insistiez pour vous faire payer avant. Nous allons vous escorter jusqu'à la limite du camp de Sadeas. Je vous déconseille d'y revenir dans un futur proche. »
La femme hocha la tête, tenant l'avant de sa robe contre sa poitrine. Sa sage main était toujours exposée, fine, la peau brun clair, longs doigts délicats. Kaladin se surprit à la regarder fixement en rougissant. Elle se glissa auprès du clarissime tandis que ses deux camarades surveillaient les rues des deux côtés, tenant prête leur hallebarde. Même avec les cheveux défaits et le maquillage étalé, elle était très jolie.
« Merci, clarissime. Peut-être que je pourrais vous intéresser. Il n'y aurait aucun prix. »
Le jeune clarissime haussa un sourcil.
« T'entends, répondit-il, mais mon père me tuerait. Il est très porté sur les traditions. »
« Dommage, répondit-elle en s'écartant de lui, se couvrant maladroitement la poitrine tandis qu'elle glissait le bras dans sa manche. Elle sortit un gant pour sa sage main. « Dans ce cas, votre père est très pudibond. »
« On pourrait dire ça. »
Il se retourna vers Kaladin.
« Hé, gamin !»«
Gamin ?»
Ce petit lord semblait n'avoir que quelques années de plus que Kaladin.
Courez prévenir le clarissime Reral Makoram, dit le porte-éclat en jetant quelque chose vers Kaladin à travers la rue.
Une sphère. Elle scintilla au soleil avant que Kaladin ne l'attrape.
Il fait partie du 6e bataillon. Dites-lui, Cadoline Collin n'assistera pas à la réunion du jour. J'enverrai des consignes pour la reprogrammer un autre jour.
Kaladin baissa les yeux vers la sphère. Une brisure d'émeraude. Plus qu'il n'en gagnait généralement en 2 semaines. Il leva les yeux. Le jeune clarissime et ses 2 hommes s'éloignaient déjà, suivis par la prostituée.
« Tu t'es précipité pour l'aider, » dit une voix.
Il leva les yeux pour voir s'il descendre en flottant et venir se poser sur son épaule.
« C'est très noble de ta part. »«
Ceux-là sont arrivés avant, » dit Kaladin.
« Et l'un d'entre eux est un pâle iris, rien que ça. Qu'avait-il à y gagner ?»«
Mais tout de même, tu as essayé de l'aider. »
« C'était idiot, » dit Kaladin. « Qu'est-ce que j'aurais fait? Battu un paliris? Ça aurait appelé la moitié des soldats du camp à me tomber dessus. Et la prostituée aurait eu droit à d'autres coups pour avoir provoqué une telle rixe. Elle aurait pu se faire tuer à cause de moi. »
Il se tut. Ça ressemblait beaucoup trop à ce qu'il disait un peu plus tôt. Il ne pouvait pas se mettre à croire qu'il était maudit ou malchanceux ou quoi que ça puisse être. La superstition ne menait jamais nulle part. Mais il devait avouer que ce schéma était effectivement dérangeant. S'il agissait comme il l'avait toujours fait, comment pouvait-il s'attendre à des résultats différents?
Il fallait qu'il essaie quelque chose de nouveau, un changement, d'une manière ou d'une autre. Il allait falloir qu'il y réfléchisse davantage.
Kaladin se remit en marche vers le dépôt de bois.
« Tu ne vas pas faire ce qu'a demandé le clarissime ? »
dit-il. Elle ne montrait plus aucun signe de sa peur soudaine, comme si elle voulait faire croire que ça ne s'était jamais produit.
« Après la façon dont il m'a traité ?» rétorqua Kaladin d'un ton brusque.
« Ce n'était pas si terrible. »«
Je ne compte pas m'incliner devant eux, » répondit Kaladin. « J'en ai assez de courir selon leurs caprices, simplement parce qu'ils comptent sur moi pour le faire. » S'il s'inquiétait tellement de ce message, il aurait dû attendre de s'assurer que je comptais bien le faire.
« Tu as pris sa sphère. »
Gagné par la sueur des sombres iris qu'il exploite. S'il se tut un instant.
« Cette noirceur que je vois en toi quand tu parles d'eux me fait peur, Kaladin. Tu n'es plus toi-même quand tu penses aux pâles iris. »
Il ne répondit pas et continua simplement à marcher. Il ne devait rien à ce clarissime, et par ailleurs, il avait l'ordre de rentrer au dépôt de bois. Mais l'homme s'était bel et bien avancé.
pour protéger cette femme.
Non, se dit Kaladin avec insistance. Il cherchait simplement un moyen d'embarrasser l'un des officiers de Sadeas. Tout le monde sait qu'il règne des tensions entre les camps.
Et ce fut tout ce qu'il s'autorisa à penser à ce sujet.